Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Écoutez ma voix, Seigneur, mon cri vers vous, Alléluia. Mon cœur vous dit, je cherche votre face, Seigneur, votre face sans cesse, ne me dérobez pas votre face. Mes très chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ est monté aux cieux, et le Saint-Esprit, liturgiquement parlant, ne nous a pas encore été envoyé. Nous sommes dans l'état du petit enfant dans le sein de sa mère, qui est déjà vivant, et qui n'a pas encore reçu de Dieu l'âme rationnelle qui fait de lui ce qu'il doit être. Voilà pourquoi, dans l'introïte dont vous venez d'entendre les paroles, l'Église nous fait nous adresser à Dieu avec une grande avidité. Écoutez ma voix, Seigneur, que mon cri vers vous, je cherche votre face sans cesse, ne me dérobez pas votre face. Nous sommes dans une situation où nous n'avons plus notre Seigneur, sa présence physique, sensible ici-bas, et nous n'avons pas encore reçu, toujours liturgiquement parlant, le Saint-Esprit. Donc nous sommes dans une très grande avidité de ce que Dieu, du don de Dieu. Si Dieu se détournait sa face de nous en ce jour, nous serions perdus. Et toute l'œuvre de son Fils, l'œuvre rédemptrice de son Fils, serait elle aussi réduite à néant. Nous cherchons donc la face de Dieu avec les apôtres qui pendant 10 jours, comme vous le savez, étaient dans la retraite, priant sans cesse pour et attendant l'effusion du Saint-Esprit qui aura lieu dimanche prochain, donc le jour de la Pentecôte. C'est un dimanche dans l'attente du Saint-Esprit. Nous devons donc, mes très chers frères, nous l'avons dit, imiter les dispositions des apôtres. Nous voulons, et quelles étaient ces dispositions des apôtres? Fondamentalement, on peut dire, et ce sera le thème de ce serment avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons vouloir ce que Dieu veut pour nous. Donc nous aurons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit. Notre premier point nous mènera à voir comment Dieu agit en nous. Et nous ferons rapidement l'exposé théorique des dispositions qui doivent être les nôtres, les dispositions intérieures qui doivent être les nôtres. Mais nous nous empresserons de passer au deuxième point, qui, vous comprendrez, sera beaucoup plus pratique. Nous verrons un certain nombre d'applications pratiques pour ne pas en rester à la théorie et donc pour ne pas se croire dispensé de la mettre en pratique. Nous verrons quelques applications pratiques. Nous verrons aussi comment le prochain est employé par Dieu. Et nous verrons aussi qu'il est impossible d'aimer Dieu sans exercer la charité envers le prochain. Et nous terminerons par un troisième point en voyant la raison de la pédagogie divine, et nous verrons aussi pourquoi Dieu n'agit pas autrement qu'il n'agit avec nous, et ça sera le moment pour nous encourager de découvrir le fruit secret de la charité. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc
et in hora mortis nostrae.
Amen. Mes très chers frères, regardons l'oraison d'aujourd'hui, qui est, comme toutes les oraisons, très belle. Celle-ci est très simple, mais elle est simple comme un programme qui est clair et net. Dieu Tout-Puissant et Éternel, faites que nous apportions toujours une volonté fidèle à vous suivre et un cœur sincère à vous servir, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Le Dieu, mes très chers frères, le Dieu qui peut faire en nous, de nous, ce qu'il veut, est appelé ici le Dieu, et nous adressons à lui par l'expression omnipotens sempiternatus, Dieu tout-puissant et éternel. Nous avons souvent dit que si nous nous adressons à Dieu en tant que tout-puissant, c'est que nous sommes sur le point de lui demander, ou l'Église est sur le point de nous faire demander, quelque chose qui dépasse nos forces. Et nos forces étant nulles, nous avons besoin en tout moment du Dieu tout-puissant. Mais ici, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu Tout-Puissant, nous allons voir que c'est un Dieu Tout-Puissant dont nous attendons que sa toute-puissance se manifeste concrètement dans nos vies, et j'allais dire dans nos organismes spirituels, que nous sommes, nous, êtres humains, a fortiori baptisés, bien entendu. Donc, ce Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu qui peut faire ce qu'il veut en nous. Il est l'artisan, et nous sommes le morceau de bois, le morceau de pierre. L'artisan peut façonner le bois selon sa volonté, et c'est pour cela qu'il s'appliquera à faire changer la forme du bois. la forme du bois ou de la pierre, la matière qu'il travaille, il a les moyens de la faire changer dans la mesure où il sait la forme qu'il veut lui communiquer. Nul, peut-être, à moins peut-être les artistes modernes, etc., mais enfin, j'ignore leurs mœurs, mais nul ne commence un travail s'il n'a pas à l'esprit la forme finale qu'il veut lui donner. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Dieu sait la forme finale qu'il veut nous donner, et nous aussi nous le savons, puisque c'est la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit saint Paul dans une épître. C'est la forme, c'est notre Seigneur, et pour ce faire, Dieu, eh bien, veut nous dégrossir. Alors, vous allez dire, ça annonce des choses qui semblent un peu roboratives et un peu inquiétantes. Elles le sont. Elles le sont, car Dieu nous aime, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et en même temps, nous savons que c'est un Dieu infiniment bon, infiniment sage, infiniment aimant, qui ne nous laisse pas tout seul face à une hypothétique but qu'il nous aurait fixé, et qu'il nous aurait assigné, et ensuite il serait parti en nous abandonnant totalement. Il ne nous abandonne jamais, c'est pour cela que nous pouvons écouter l'énoncé de sa volonté pour nous, sans trembler de peur, sans trembler de terreur. Nous savons que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Mais comment cela se fait-il ? Pour nous transformer à l'image de son Fils, mes très chers frères, Dieu emploie quoi donc ? Il n'emploie pas une force angélique, il n'emploie pas une force extérieure à nous, il n'emploie pas, vous avez dit, est-ce qu'il emploie, il emploie le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est envoyé afin que ce que Dieu emploie puisse être employé par lui. Et qu'est-ce qu'il emploie ? Il emploie quelque chose de fondamental à l'homme qui, s'il ne l'a pas, ne peut pas être réputé vraiment un homme, c'est la volonté. Dieu, pour nous façonner à l'image de son Fils, emploie notre volonté, et qui est comme, en quelque sorte, la racine de l'homme. Il y a plusieurs choses qui caractérisent l'homme en tant qu'homme, en tant que créature humaine, qui le distingue des autres créatures. La volonté en est une particulière. Il y a aussi la mémoire, l'intelligence, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la volonté. La volonté, c'est cette faculté de se déplacer en quelque sorte moralement d'un point de base à un point de chute, ou plutôt, parler positivement, à un point de maturité. C'est cette volonté. Il ne s'agit pas simplement d'une évolution naturelle telle que tous les corps peuvent les connaître, qui passe de l'état d'œuf à l'état d'adulte, comme pour les moustiques et autres poissons, mais il s'agit de ce moteur qui fait que, à moins de le mettre en œuvre, nous stagnons dans quelque chose qui n'est pas beau et qui est l'humain tel qu'il se présente. C'est-à-dire quelque chose qui était fait pour être beau, quelque chose qui a chuté, quelque chose qui s'est fragmenté, quelque chose qui est monstrueux, mais avec la possibilité d'être restauré. Dieu veut nous restaurer, Dieu nous a déjà restaurés puisqu'il nous a fait, octroyer le baptême. Maintenant, il se trouve que si le baptême suffisait simplement pour être sauvé, cela se saurait. Sans le baptême, on ne peut pas être sauvé. Avec le baptême, encore faut-il que l'efficace, la vertu du baptême passe et anime dans notre volonté, de telle sorte que notre volonté réalise, comme un tour de clé qui ouvre la porte, réalise le plan de Dieu pour nous. C'est pour cela, mes très chers frères, que paradoxalement, alors que nous avons parlé de la volonté, de l'importance de la volonté, paradoxalement, nous nous adressons à Dieu dans cette oraison et nous utilisons, le seul impératif qui est utilisé pour Dieu, pour nous adresser à Dieu, c'est le mot « faire ». Faire, faites, faites. Vous allez dire, mais si nous avons une volonté, c'est nous qui devons faire. Nous avons une volonté, mais notre volonté doit être la volonté divine. Mutatis mutandis, il ne faut pas trop pousser la comparaison, mais notre volonté doit être à la volonté divine ce que le gant est à la main. C'est-à-dire que la volonté est faite, la volonté de l'homme est faite pour adhérer et être en adéquation avec la volonté divine, mais d'elle-même, elle ne peut rien. Elle ne peut que faire n'importe quoi. Laisser un gant sur un établi ou à l'extérieur, sur une table à l'extérieur, qu'est-ce que ce gant va réussir à faire ? Il va réussir à devenir un antre d'araignée. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention, lorsque l'on met des gants, des chaussures, etc. qui sont dehors, il y a toujours des bêtes dedans. Si nous laissons notre volonté livrée à elle-même, elle va être un repère de démons. En revanche, si le gant est mis là où il faut qu'il soit mis, et qu'il est utilisé par la personne qui doit l'utiliser, alors le gant suit exactement tous les mouvements de la main, et le gant et la main ne sont qu'un. Faites, Faites. Voilà ce que nous demandons à Dieu. Faites. Il se trouve, mes très chers frères, que l'adéquation entre la puissance créatrice de Dieu et l'articulation entre la puissance créatrice de Dieu et la liberté humaine se situe dans la volonté humaine. Où est-ce que Dieu se manifeste sa puissance? Dans notre volonté. Si, vous allez dire, et s'il se manifestait autrement, s'il se manifestait plus directement, et si je n'étais qu'un gant dans lequel Dieu devait se manifester? C'est là où la comparaison a ses limites, bien entendu. S'il se manifestait autrement, eh bien, d'une certaine manière, il agirait d'une façon qui est indigne de lui, parce qu'il se manifesterait à peu près comme un démon se manifeste lorsqu'il possède quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait, le démon, quand il possède quelqu'un? Il l'agite, comme dit l'Écriture, il l'agite, il le jette dans le feu, dans l'eau, il lui fait faire des choses. Alors, ce n'est pas la personne qui fait ces choses-là, mais cette personne agit d'une façon qui est grotesque. Et le démon anime bien sûr cette personne, mais il l'anime d'une façon tellement imparfaite, Dieu merci, il l'anime d'une façon tellement imparfaite qu'il lui fait se comporter comme une personne anormale, en dehors de la normalité de base de l'être humain. Dieu avilirait sa puissance s'il nous animait comme un démon anime une malheureuse créature. Dieu nous anime plutôt que comme le démon le possédait, comme l'âme anime le corps. Est-ce que le corps est tout le temps en train de dire à l'âme, « Eh bien, vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez, moi je ne fais que vous suivre. » Le corps épouse l'émotion, la motion de l'âme, de telle sorte que le corps fait exactement, normalement, ce que l'âme veut qu'il fasse. Le corps est à l'âme ce que l'instrument est à l'artisan. Nous devons être, notre liberté doit être à la volonté divine, ce que, encore une fois, le gant est à la main, sachant que l'interface entre les deux, c'est notre volonté. Nous devons vouloir ce que Dieu veut pour nous. C'est pour cela que l'Église, qui a tout prévu, nous fait dire ceci à Dieu, « Fac nos tibi semper et devotam gerere voluntatem ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie « Faites que notre volonté vous soit toujours dévouée ». Or, mes très chers frères, on ne peut être dévoué qu'à ce qu'on aime. On peut être dévoué à un patron simplement pour l'argent, mais sous un certain rapport, si ce patron, on ne l'aime pas ou on n'aime pas la finalité de son entreprise ou de sa raison d'être, et qu'il ne nous paye pas, qu'est-ce qui va nous motiver justement? On ne va pas aller. Si il nous paye, d'une certaine manière, nous allons être motivés. Ça sera une forme très basse de dévotion, de dévouement. Je suis dévoué à mon patron parce que quand même, il me paye. Il en va beaucoup mieux avec Dieu. Nous devons être dévoués à Dieu parce que nous l'aimons. On ne peut pas être dévoué à Dieu si on n'aime pas Dieu. Et or, l'Église nous fait demander ici que notre volonté, voluntatem, soit dévotam, soit dévouée, soit vouée à Dieu. Faites que notre volonté vous soit toujours dévouée. On ne peut être dévoué qu'à ce qu'on aime, et on ne peut aimer, mes très chers frères, c'est un lieu commun, que ce qu'on connaît. On ne peut aimer Dieu si on ne le connaît pas. Si on aime éperdument Dieu, mais qu'on ferme ses oreilles à l'enseignement de l'Église, on va peut-être se retrouver en train d'adorer le Dieu des musulmans, le Dieu des hindous, le Dieu des autres religions. Notre volonté sera là. On ne peut pas nier que nous avons un amour de Dieu, d'une façon générale, mais ce n'est pas du vrai Dieu. Nous devons donc, pour que notre volonté soit dévouée à Dieu, c'est-à-dire qu'elle soit vouée à la volonté de Dieu, il faut que nous aimions Dieu, et pour aimer Dieu, il faut le connaître. Mes très chers frères, c'est le rôle de l'Église dans son enseignement, c'est aussi le rôle des bons auteurs, qui sont simplement les porte-paroles de l'Église et qui sont morts, mais qui ont laissé des traces écrites. Nous devons nous imprégner de l'Écriture sainte, bien entendu, à commencer par l'Écriture sainte, des bons auteurs, nous devons nous imprégner de l'enseignement de l'Église, de telle sorte que nous puissions connaître Dieu et que le connaissant, nous l'aimions. Ce n'est pas un serment sur l'amour de Dieu, donc nous le faisons simplement passer. Si nous mettons notre âme dans un état de disette spirituelle, eh bien il se trouve que, comme par hasard, notre amour de Dieu va aussi s'affaiblir. Il viendra un temps, l'a dit le prophète, où les âmes seront dans une faim de la parole de Dieu. Nous y sommes peut-être, c'est-à-dire que les âmes meurent de faim. Et les âmes des chrétiens, bien souvent, se nourrissent de toutes sortes de carouges qui sont normalement dévouées aux pourceaux, et qui, elles se détournent des eaux vives de la parole de Dieu, elles se détournent du pain suressentiel de la parole de Dieu. Mes très chers frères, pour connaître Dieu, il faut aussi prendre en compte autre chose. Il ne s'agit pas simplement de, si j'ose dire, pour parler un peu vulgairement, de se farcir l'esprit avec toutes sortes de choses de théologiques. Ça, d'une certaine manière, ça ne nous fera pas connaître Dieu, ça nous fera engranger des connaissances sur Dieu dans notre mémoire, ce qui n'est pas vraiment la même chose, même si l'un doit aller avec l'autre quand les choses vont bien. Pour connaître Dieu, eh bien, il faut avant tout méconnaître quelque chose. Pour connaître Dieu, il faut reconnaître que nous sommes moins intéressants que ce que nous imaginons. C'est-à-dire que si nous voulons vraiment avoir cette soif de connaissance de Dieu qui va alimenter notre amour de Dieu, il nous faut nous méconnaître. Alors, vous comprenez, il s'agit de se détourner de soi-même, de se détourner de... Des fois, on est passionné par certaines choses, un certain nombre de choses, chacun est passionné, comme nous disions dimanche dernier, chacun est passionné par... chose qui le passionne, et il ne faut pas jeter la pierre à l'autre, il faut se regarder soi-même. Nous sommes passionnés par des choses qui, bien souvent, prennent le pas sur le temps de la prière, le temps de la lecture, le temps de la méditation. Si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous devons nous méconnaître nous-mêmes, c'est-à-dire nous devons mortifier ce qui passionne notre intelligence et qui, en quelque sorte, phagocyte notre intelligence, justement, et l'empêche, en dérivant ses sources, ou plutôt en l'asphyxiant, nous empêche de connaître Dieu. Pour le dire d'une façon un peu plus brutale, pour connaître Dieu, il faut nécessairement le mépris de soi. Le mépris de soi est l'envers de la connaissance de Dieu. On ne peut pas, regardez, même pour une amitié, si je suis plein de moi-même et que j'ai un ami, je ne m'intéresserai jamais à ce qu'est, ce que fait, ce que pense cet ami, si je suis constamment en train de me gariser moi-même. Alors si c'est vrai pour des choses humaines, c'est des relations humaines, c'est vrai aussi et surtout, a fortiori, pour les choses divines. Si nous sommes pleins de nous-mêmes, nous ne pourrons pas être pleins de l'amour, nous ne pourrons pas avoir l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, c'est la charité. C'est pour cela que, après nous avoir fait demander à Dieu que notre volonté lui soit toujours dévouée, l'Église nous fait demander autre chose que notre fait, Seigneur, que nous puissions, que nous vous servions d'un cœur, que nous servions votre majesté d'un cœur sincère. Faites que nous servions votre majesté avec un cœur sincère. L'Église, mes très chers frères, veille à ce que nous ne nous épuisions pas par des velléités. Les velléités, qu'est-ce que c'est? Ce sont des amorces de volonté. J'aimerais bien faire ça, je vais faire ça, je veux faire ça, et puis finalement je ne le fais pas. Et vous savez, c'est une phrase bien connue, une maxime bien connue, l'enfer est pavé de bonnes intentions, l'enfer est plein de velléités. Que Dieu nous garde des velléités, c'est-à-dire des amorces de volonté qui ne sont jamais réalisées. Pour que nous ne nous épuisions pas dans des velléités, parce que la velléité décourage, aussi, il ne faut pas l'oublier, l'Église nous fait demander à Dieu la sincérité envers Dieu. Or, cette sincérité, le fait d'être sincère, de l'aimer sincèrement, de vouloir sincèrement faire sa volonté, pas simplement de lèvres. Encore une fois, l'envers de cette sincérité vient de la connaissance objective de notre corruption. Si je ne sais pas ou je ne veux pas savoir que de moi-même ne vient que le péché et le mal, alors je ne pourrai pas sincèrement rechercher Dieu comme la source de tout bien et comme le moteur du bien que je dois faire, comme le moteur même de ma volonté. Comment mettre à profit cette connaissance objective de notre corruption? Mes très chers frères, l'Église nous le donne. Tout est écrit dans les textes de l'Église. Et majestati tue sincero corde servire. Dans le texte, la traduction que j'ai sous les yeux, on dit « et un cœur sincère à vous servir ». Cœur sincère à vous servir, c'est très bien, à servir votre majesté. Nous ne pouvons pas nous détourner du tyran que nous sommes à nous-mêmes, si nous ne nous faisons pas volontairement les serviteurs de la majesté divine. Et majestati tue sincero corde servire. Que nous servions votre majesté d'un cœur sincère. Servir la majesté de Dieu, c'est mettre en œuvre la crainte révérentielle envers Dieu. C'est cette crainte filiale envers notre Père céleste, cette crainte de lui déplaire, cette crainte de l'attrister. C'est, en un mot, la reconnaissance pour l'amour gratuit dont il nous a aimés le premier, alors même que nous étions ses ennemis autrefois. Alors comment tout ceci se met-il en pratique? Nous passons à notre deuxième point, la pratique. Tout ceci est bien facile à comprendre, nous l'avons déjà entendu mille fois, nous l'avons dit mille fois. Si nous en restions là, nous nous dirions, bon, ben, je vais réfléchir à tout ça et puis je vais voir comment mettre en pratique. L'Église doit nous aider, elle doit nous mettre le pied à l'étrier. Comment mettre tout cela en pratique? Eh bien, ce n'est pas pour rien que l'Église nous fait lire cette épître de Saint-Pierre, qui nous dit, mes bien-aimés, soyez prudents et veillez dans la prière. Mais avant tout, ayez les uns pour les autres une charité persévérante, car la charité couvre beaucoup de péchés. La volonté, mes très chers frères, est comme un muscle, en vérité. Moins on l'utilise, plus elle s'affaiblit. Les gens qui sont paralytiques et couchés sur leur lit, leurs muscles deviennent comme des ficelles molles et ils sont incapables de faire des mouvements. L'athlète, l'artisan, celui qui travaille et qui utilise ses muscles pour transporter des choses, pour arriver à toutes sortes de résultats, cultive ses muscles et en les cultivant, curieusement, il ne va pas les affaiblir parce qu'il les utilise, il va les renforcer. Le muscle est ainsi fait que plus on l'utilise, plus il devient fort. La volonté, c'est la même chose. Moins on l'utilise, plus on la disperse dans les velléités, plus elle s'affaiblit. Plus on se fixe un objectif pour l'amour de Dieu et avec l'aide de Dieu, on le réalise, plus on en ressort fortifié. La volonté est comme un muscle, elle est comme le muscle de l'âme, si l'on peut dire. Plus on l'utilise, plus elle se fortifie. Il faut donc, mes très chers frères, l'exercer. C'est pour cela que Saint-Pierre nous dit Ante omnia autem. Or, avant toute chose, quoi donc? C'est la recette pour muscler la volonté, si l'on peut dire. Avant toute chose, quoi donc? Combattez les démons, faites des choses. Non. Avant toute chose, ayez les uns pour les autres une charité. Une charité persévérante. Avant toute chose, c'est donc un fait fondamental vis-à-vis du prochain par rapport auquel nous devons être vigilants. C'est-à-dire que si nous voulons voir dans notre vie les fruits de la puissance, les manifestations de la puissance divine de Dieu à l'œuvre, nous devons fondamentalement et par-dessus toute chose avoir cette charité persévérante. Pourquoi Saint-Pierre dit-il cette charité persévérante? Pourquoi? Tout d'abord, charité. Il s'agit, mes très chers frères, de comprendre que si nous n'aimons pas notre prochain, d'une façon générale, nous ne pouvons pas persévérer dans la charité, c'est évident. Si on n'a pas le début, on ne peut pas avoir la fin non plus ou la continuité. Si nous avons de la haine ou du mépris pour notre prochain, nous sommes prisonniers de notre égoïsme et de notre persévérance. Ce sont des vérités générales, tout le monde est capable de le dire, qui se dit chrétien. Saint-Pierre nous dit une charité persévérante. Il faut persévérer dans ses sentiments. Alors, nous n'allons pas nous étendre sur la charité envers le prochain, parce que ce n'est pas le thème de ce sermon. Nous disons simplement que Saint-Pierre nous dit qu'il faut être persévérant dans la charité. Pour que la charité porte ses fruits, et quel est son fruit? La transformation du chrétien dans le Christ. Pour que la charité porte son fruit, il faut qu'elle soit persévérante. Sinon, le fait de supporter un prochain pénible à un certain moment, le fait de faire une bonne action, le fait de faire l'aumône, le fait de faire une telle ou telle œuvre de miséricorde spirituelle ou matérielle ou corporelle, sans plus, ça s'apparente à de la velléité. Alors c'est mieux que rien, bien entendu, et c'est peut-être l'amorce d'autre chose encore. Mais si nous nous disons de temps en temps, la charité de temps en temps, c'est bien, ce n'est pas la charité persévérante. Or, Saint-Pierre nous dit, avant tout, ayez la charité persévérante. La répétition inlassable d'un exercice fondamental, c'est ça la charité persévérante. Et quel est cet exercice fondamental, mes très chers frères? Je vais vous donner une formule très concrète, c'est de voir Dieu à l'œuvre en nous, dans et par la personne du prochain qui nous exerce. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas compris que Dieu se manifeste à nous comme notre entraîneur, nous allons y revenir dans un instant, se révèle à nous, se manifeste à nous comme notre entraîneur, par notre prochain qui nous exerce, c'est-à-dire le prochain un peu pénible, si nous ne comprenons pas cela, en fait, nous chercherons partout la main de Dieu et nous ne la verrons jamais là où elle est. Si nous ne persévérons pas dans la charité vis-à-vis du prochain pénible, et cette pénibilité peut varier, ça peut être une pénibilité imaginaire qui nous fait souffrir alors qu'il n'y a pas de pénibilité, ça peut être aussi une pénibilité vraie, ça peut exister aussi, moins souvent qu'on le croit, mais enfin, plus souvent qu'on le voudrait malheureusement. Donc cet exercice fondamental consiste à, pour avoir la persévérance dans la charité, consiste à voir Dieu dans le prochain, spécialement dans le prochain qui nous exerce, le prochain pénible. En nous révoltant, mes très chers frères, en nous révoltant, nous controns d'une façon directe l'œuvre de Dieu, un peu comme l'entraîneur qui, alors qu'il est en train de courir à côté de l'athlète, l'insulte, l'injurie en quelque sorte, en le traitant, je ne sais pas, de femmelette, de fillette, de mauviette, etc. Comme si l'athlète s'arrêtait tout d'un coup, regardait son entraîneur, lui mettait une claque en lui disant « Mais comment est-ce que vous osez m'insulter de la manière ?» Qu'est-ce qui serait en tort ? Est-ce que, alors, l'athlète idiot pourrait dire « C'est mon entraîneur qui m'insulte. » Est-ce que quelqu'un d'objectif lui donnerait raison ? Est-ce qu'on dirait à l'entraîneur « S'il vous plaît, arrêtez d'insulter. » Ce n'est pas des insultes. Ce sont des formes d'encouragement un peu paradoxaux qui, en quelque sorte, jouant sur l'amour propre, c'est-à-dire on parle des choses du monde, bien entendu, jouant sur l'amour propre, jouant sur la fierté, font que paradoxalement, l'athlète trouve du courage en lui-même, trouve de la force en lui-même pour courir plus vite, pour sauter plus loin, etc. Donc, nous dirions à cet athlète, vous vous trompez complètement. En fait, votre meilleur ami, c'est votre entraîneur qui apparemment vous injurie, vous insulte. Si vous vous laissez traiter par lui comme cela, vous allez devenir un champion. Si vous lui cassez la figure en lui disant de ne plus vous insulter, vous êtes en train de non seulement de ruiner la raison d'être de cet entraîneur, mais en plus vous êtes en train de ruiner votre propre carrière, puisque vous vous empêchez d'être motivé et d'être poussé jusqu'à vos limites pour devenir un champion. Alors jusque-là, tout le monde est d'accord, tout le monde sourit en disant « oui, effectivement, c'est un exemple que j'ai déjà entendu, c'est assez drôle ». C'est drôle, sauf quand ça nous concerne, nous. Notre prochain est là, notre prochain est désagréable. Il excite notre impatience, il nous pousse à nous mettre en colère. Nous avons tendance, ce prochain a tendance à dire quelque chose, à faire des remarques, à faire quelque chose qui excite en nous l'irascible. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va dire « mon Dieu, faites que ce prochain disparaisse, parce que si vous ne le faites pas, je vais lui casser la figure ». Alors vous allez dire « oui, mais c'est sûr que j'avoue que c'est des fois ce que je demande ». Mais vous êtes aussi bêta que l'athlète dont nous avons parlé. En réalité, c'est Dieu. Ce prochain n'est que la marionnette de Dieu. Vous allez dire, alors Dieu est vraiment cruel, vraiment méchant. Mais Dieu, qu'est-ce que c'est ? Dieu, c'est un tyran, c'est un tortionnaire. Vous savez, la différence entre un tortionnaire et un entraîneur, elle est parfois ténue. Le tortionnaire veut faire souffrir la personne. L'entraîneur fait accidentellement souffrir la personne pour que cette personne devienne plus forte. Les deux, sous un certain rapport, à un certain temps donné, font souffrir la personne, mais l'un fait souffrir pour faire souffrir, et il est bon, c'est mauvais, et l'autre fait souffrir, mais non pas pour faire souffrir, mais pour rendre plus fort. Dieu n'est pas cruel avec nous lorsqu'il nous colle un prochain pénible. Dieu est très bon envers nous, qui nous permet de travailler sur l'irascible, qui nous permet de travailler sur la patience, etc. Si vous consultez des coachs sportifs, ils vont vous dire « regardez, vous savez même pas que tel muscle existe, soulevez tel poids, faites tel mouvement, vous allez voir, vous allez faire grandir ce muscle, vous saviez même pas qu'il existait dans votre corps ». Comment est-ce que je pourrais travailler sur l'irascible ? Comment est-ce que je pourrais travailler sur le concupiscible ? Comment est-ce que je pourrais travailler sur mes divers appétits si je n'ai pas exactement le prochain qu'il faut pour révéler en moi cette chose qui est fautive, qui est faible et que je n'arriverai jamais à atteindre par moi-même ? On n'arrive jamais à se mettre en colère tout seul. Enfin, des fois ça arrive, mais on n'arrive jamais à être impatient ou comme on l'est par rapport à un prochain, par rapport à soi-même. Donc, sous un certain rapport, ça peut, mais vous voyez, il nous faut un prochain. Et Dieu, nous aimant, Dieu étant notre entraîneur, si j'ose dire, Dieu nous place auprès de nous un prochain, ou plusieurs prochains d'ailleurs, parce que nous avons plusieurs muscles, et il se trouve qu'il nous fait travailler les choses à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre âme, par notre prochain. Dieu ne peut pas agir autrement. Il ne peut pas agir autrement. Pourquoi ? Eh bien, nous verrons ça dans notre troisième point dans un instant. Pour mes très chers frères, alors vous allez dire, j'ai bien compris l'exemple que vous donnez, mais mis en pratique, c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement difficile, c'est impossible. Il nous faut donc le discernement. Le discernement, non pas pour voir comment notre prochain est utile, mais pour voir que notre prochain nous est envoyé spécialement par Dieu, et même aposté auprès de nous spécialement par Dieu. Nous devons donc obtenir le discernement. Et pour obtenir ce discernement, pour voir Dieu en toute chose et en toute personne, si l'on peut dire, spécialement dans le prochain pénible, nous devons avant tout confesser que, livrés à nous-mêmes, eh bien notre complaisance envers nous ne peut que nous emprisonner dans notre corruption. Si cet entraîneur, ce prochain qui ne sait pas qu'il est notre entraîneur, mais qui est notre entraîneur, si nous ne pouvons pas discerner dans ses injures, dans ses insultes, dans ses provocations, l'œuvre même de Dieu pour notre bien, et si nous arrivons à le contourner, et malheur à nous si Dieu effectivement écarte ce prochain pénible de nous avant l'heure, il l'écartera quand il aura fait son temps, mais avant l'heure, Dieu nous laisse retomber en lui-même. Imaginez que le président du club sportif dise au sportif, effectivement cet entraîneur, je l'ai vu, il vous injurie à longueur de journée, je vais le licencier. Il est licencié, il dit maintenant, voilà, vous vous débrouillez tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Le type, ce malheureux athlète va manger des glaces toute la journée au bord de la piste, et le jour de la compétition arrivée, eh bien ça sera bouboule parmi les champions. Il sera tout gros, tout mou, et il ne pourra pas faire ce... Vous voyez, mes très chers frères, malheur à nous si Dieu nous enlève notre entraîneur. Parce que notre entraîneur nous casse les pieds, si j'ose dire, mais notre entraîneur sait, notre prochain ne le sait pas forcément, mais Dieu le sait, qui nous a donné cet entraîneur, sait quel est l'état athlétique que Dieu veut nous faire atteindre. Donc voyons les choses sous cet angle-là. Il nous faut donc discerner Dieu dans notre prochain. Et l'Église nous aide encore à ceci en nous faisant dire par saint Pierre, soyez prudents et veillez dans la prière. Estote prudentes et vigilate in orationibus. Soyez prudents, et il nous dit, et avant tout, etc. Avant tout, avant toute chose, par-dessus toute chose, soyez attentifs à votre entraîneur. Et avant cela, si l'on peut dire, et pendant cela, soyez prudents et veillez dans la prière. Pourquoi la prudence et la veille dans la prière, mes très chers frères? C'est parce que dégager des façons égoïstes dont nous pouvons utiliser la prière et la prudence, c'est-à-dire pour nous garantir loin de notre prochain et nous faire une petite vie tranquille et qui n'est pas à la gloire de Dieu, la prière, la prudence et la vigilance dans la prière, mes très chers frères, nous ouvrent les yeux sur la bonté transformante de Dieu. Si nous prions, si nous sommes constamment dans la présence de Dieu, notre prochain, quelque pénible qu'il puisse être, ne va pas sortir de cette présence, puisqu'il ne va pas rentrer dans notre... Quand il s'approchera de nous, il ne va pas nous faire sortir de la présence de Dieu. Nous allons donc reconnaître une présence particulière de Dieu auprès de nous dans ce prochain. Mais ce prochain, comment pourrions-nous discerner quel il est si nous ne sommes pas prudents, c'est-à-dire sages et vigilants dans la prière? Si nous oublions que Dieu règle toutes choses dans notre vie, nous n'allons pas voir l'ordre que Dieu prévoit dans notre vie et par lequel il veut nous transformer. La prière, mes très chers frères, la pierre, se laisse tailler, si l'on peut dire, une pierre humaine, la pierre se laisse tailler volontairement dès lors qu'elle est entrée dans les vues de l'artisan. Si je suis constamment en train de prier, si je suis constamment en train de lire les psaumes, si je suis constamment en train de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la vôtre. Lorsque la volonté transformatrice de Dieu va s'appliquer à moi, lorsque mon prochain, pour parler concrètement, va m'être pénible, je vais dire, là encore et à ce moment-là, non pas ma volonté, mais la vôtre, Seigneur. Et je vais être transformé. Et c'est ainsi que, étant entré dans les vues de l'artisan, étant entré dans les vues de l'entraîneur, celui qui souffre en courant sur la piste va se soumettre à ce régime de telle sorte à pouvoir atteindre le but donné. Nous devons donc, mes très chers frères, nous aimer comme Dieu nous aime, c'est-à-dire nous laisser travailler. Or, vous savez que dans notre langue, le mot travail a essentiellement le sens de torture, en réalité. Si nous laissons Dieu, quand on dit j'ai une douleur qui me travaille, si nous laissons Dieu nous travailler, eh bien, il va peut-être nous faire souffrir, c'est vrai, mais comme l'entraîneur fait souffrir l'athlète. Non pas pour le laisser comme une sorte de loc, mais justement pour nous faire nous dépasser nous-mêmes et nous faire atteindre la parfaite stature du Christ progressivement. C'est ainsi, mes très chers frères, c'est alors que l'on parvient à cette sincérité dont parle l'oraison, lorsque l'on veut vraiment ce que Dieu veut et qu'on se donne les moyens de laisser Dieu réaliser en nous sa volonté. Vous voyez, notre volonté coïncide avec la sienne. Passons à notre troisième point. Dans la post-communion, on dit quelque chose qui, la plupart du temps, peut sembler pénible à entendre. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à son Père, c'est une communion, une tienne de communion un peu longue, « Père, lorsque j'étais avec eux, je les gardais en votre nom, ce que vous m'avez donné. Mais maintenant, je viens à vous. Je ne vous demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. » Et souvent, lorsque nous lisons ce verset dans l'évangile de Saint Jean, nous disons, quand même, notre Seigneur n'aurait pu nous retirer du monde, ça nous aurait épargné bien des souffrances, bien des tracas, bien des chutes, etc. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne nous a pas retiré du monde quand il est parti avec son Père? Pourquoi est-ce qu'il... Alors déjà, nous n'étions pas là, nous devions encore naître, et donc notre Seigneur est monté au ciel une seule fois. Bon, ça c'est pour l'aspect historique, mais plus sérieusement, il se trouve que notre Seigneur ne dit rien qui soit digne de reproche. Donc, si nous disons pourquoi est-ce que notre Seigneur, c'est que nous sommes plus sages. Non, il vaut mieux se taire et écouter ce que dit notre Seigneur. Je ne vous demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. Si nous sommes, encore une fois, déçus par cette prière de notre Seigneur, cette pratique de notre Seigneur, c'est qu'en réalité, curieusement, nous sommes des paresseux. Nous pourrions penser que nous sommes des gens qui désirons le ciel avant tout, nous méprisons. Non, pas du tout, nous sommes des paresseux. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie retirer du monde? Retirer du monde, si quand on dit que Dieu a retiré quelqu'un du monde, c'est une métaphore pour dire qu'il est mort. Je ne vous demande pas de les retirer du monde. Retirer du monde, ça veut dire être mis emmené au ciel, être mis en présence de Dieu. Or, si maintenant Dieu nous mettait en sa présence, si nous étions plongés dans l'éclat de la sainteté de Dieu, et si nous entendions les chérubins et les séraphins proclamer cet éclat de la sainteté de Dieu en disant Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pour nous, ça serait la damnation en réalité. Nous serions plongés dans l'éclat de la sainteté de Dieu sans préparation. Le Christ nous aurait retirés du monde, oui, prématurément, nous serions damnés. Donc vous voyez, c'est une déception, mais de paresseux. Je ne vous demande pas de les retirer du monde, signifie positivement, je vous demande de leur laisser le temps de faire pénitence et de travailler à leur sanctification, de travailler à mettre en adéquation leur volonté avec la vôtre, avec l'aide de votre grâce, de vos sacrements et de votre Église. Vous voyez, mes très chers frères, notre Seigneur nous aime trop pour nous placer directement et avant le temps dans la présence de son Père céleste. En revanche, il dit, je ne vous demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal, de les protéger contre la corruption de la concupiscence. Et cette protection de la part de Dieu n'est effective que lorsque la concupiscence est surmontée par une force plus grande qu'elle, qu'est la force de la charité. Mais cette charité ne peut être véritablement la charité, non pas une velléité de charité, que lorsqu'elle est persévérante, c'est-à-dire qu'elle se laisse exercer par le prochain. Vous voyez comme tout est lié, c'est comme une sphère où tout est lié. Il nous faut donc, mes très chers frères, mettre à profit le temps que Dieu nous donne, le temps de la grâce dont nous parlions il n'y a pas si longtemps, le temps que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui le moment de faire pénitence, c'est aujourd'hui le temps de travailler sur nous-mêmes, c'est aujourd'hui et non pas hier. Hier n'existe plus. Demain, nous ne savons pas si nous aurons un demain. C'est aujourd'hui le temps de pénitence. Il y a quelque chose de magnifique dans l'office, pour ceux qui le récitent, c'est que à plusieurs reprises au cours de l'année liturgique, revient cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui le moment, c'est aujourd'hui le temps. C'est aujourd'hui le temps de faire pénitence, de se convertir. C'est toujours aujourd'hui, grâce à Dieu, mais nous ne savons pas combien de temps cet aujourd'hui durera. Voyez-vous, mes très chers frères. Donc il nous faut combattre le mal pour le remplacer par la charité. C'est-à-dire, si nous ne combattons pas le mal pour le remplacer par la charité, nous faisons que changer de vice. Nous étions colériques, nous devenons impatients. Nous étions prodigues, nous sommes devenus avares. Ça c'est facile, c'est pas très facile, mais malheureusement c'est à la portée de n'importe quel païen. nous, lorsque nous combattons contre un vice, nous le remplaçons par une vertu. Et c'est extrêmement difficile, mais sous un autre rapport, c'est beaucoup plus facile que les efforts que le païen fait pour changer de vice, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls. Si nous avons accepté le rôle divin du prochain pénible, eh bien, nous commencerons alors, dès ici-bas et dès maintenant, à recueillir le fruit secret de la charité. Et qu'est-ce que c'est que ce fruit secret de la charité? C'est l'application, il y en a plusieurs, mais pour aujourd'hui, c'est l'application de la rédemption à notre personne. Comment est-ce que cela se manifeste? Revenons à l'épître, encore une fois, une dernière fois. Ayez avant tout, les uns pour les autres, une charité persévérante, car la charité couvre beaucoup de péchés. La charité couvre beaucoup de péchés. Alors là, c'est comme pour le verset de tout à l'heure. Pourquoi est-ce que notre Seigneur ne nous a pas emmenés au ciel directement? Une charité couvre beaucoup de péchés. Ah ben là, ça veut dire donc du coup, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Oh là là, attention, attention. Si cette affirmation de saint Paul, la charité couvre beaucoup de péchés, nous met en révolte, ça nous semble être une parole de laxisme, c'est que, en réalité, mes très chers frères, c'est que nous aimons paradoxalement le péché. Très paradoxalement. Couvrir, selon les interprètes, signifie effacer efficacement. Couvrir les péchés, c'est une expression biblique qui signifie couvrir par le sang du Christ nos péchés, et ce n'est pas, comme disent les protestants, que c'est juste une couverture artificielle, c'est que c'est couvert comme un décapant recouvre la peinture et ensuite la détruit, la digère et la rend inexistante en quelque sorte. Voyez-vous, mes très chers frères, couvrir, c'est effacer efficacement. Pardonner les offenses de notre prochain. Et selon l'ordre, bien entendu, ce n'est pas le sermon pour aujourd'hui, mais les pères, les mères, les directeurs, etc., doivent donner des pénitences, etc., pour que telle offense soit expiée. Il ne s'agit pas de faire dire à Saint-Pierre ce qu'il ne dit pas. En revanche, pour nous, dans le cadre de la charité, par rapport au prochain pénible, qui n'est pas autre chose qu'un prochain qui nous fait du tort subjectivement, couvrir une multitude de péchés, mes très chers frères, ne s'applique pas, et c'est là le secret en fait de ce passage, ne s'applique pas au prochain, mais s'applique à nous. Plus nous pardonnons à notre prochain, plus nous exerçons envers lui une charité persévérante, plus nos péchés sont expiés. Ouvrez n'importe quel commentaire, vous allez voir que c'est un sens qui arrive très rapidement. La charité couvre une multitude de péchés. Donc, cher anti-laxiste, il ne s'agit pas de dire « si je pardonne à tout le monde, je suis charitable envers tout le monde, les pécheurs vont rester dans leurs péchés ». Qui parle des péchés des autres? On parle de mes péchés. Et il s'agit simplement d'un commentaire de cette parole du Paternoster, qui est un pacte que nous faisons avec Dieu. Écoutez bien, pardonnez-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, et nos comme nous aussi. Nous demandons à Dieu qu'il nous pardonne nos péchés comme nous pardonnons à notre prochain, sauf que lui pardonne des choses beaucoup plus graves que ce que notre prochain pourrait faire. Évidemment, notre prochain, des fois, nous cause un tort gravissime, c'est vrai. Mais, sous un certain rapport, et je tremble en disant cela, mais le tort le plus atroce que l'on puisse faire à son prochain n'est jamais le tort qu'un humain fait à un autre humain. Tandis qu'un tout petit péché mortel que nous, hommes, faisons vis-à-vis de Dieu, c'est une offense infinie à la majesté infinie. Donc, nous demandons à Dieu que, moyennant, nous sommes ici entre enfants de Dieu, les enfants de Dieu et leur père, nous sommes dans un rapport d'alliance, que moyennant que nous pardonnions à notre prochain ce qui nous rabote, ce qui nous irrite, ce qui nous blesse, lui pardonne nos péchés de telle sorte que notre charité persévérante vis-à-vis de notre prochain nous vaille quoi donc? Eh bien, l'expiation d'une multitude de péchés. C'est ainsi que nous recueillons le fruit secret, le fruit caché, le fruit réservé pour ceux qui aiment Dieu et qui craignent Dieu et qui vont plus loin que la velléité, c'est que, en étant charitable envers notre prochain, nos propres péchés sont expiés. La volonté, mes très chers frères, se développe. Notre volonté se développe, ne se développe que dans la mesure où nous ne perdons jamais de vue l'action rédemptrice de Dieu, du Dieu qui nous aime. Si Dieu est notre maître ici-bas, dit un auteur, si Dieu est notre maître sur terre, il sera notre récompense dans le ciel. Et comment pourrait-il être notre maître concrètement sur terre s'il n'agissait pas par le biais de notre prochain, ou des adversités, bien sûr, bien entendu, des choses qui nous blessent? Si Dieu est notre maître sur la terre, lui-même sera notre récompense dans le ciel. Donc fortifions-nous par ces paroles, mes très chers frères, par ces pensées, ces considérations, à la fois théoriques et pratiques. Demandons le don du Saint-Esprit, tous les sept dons du Saint-Esprit. Attendons la fête de la Pentecôte avec une sainte hâte, de telle sorte que nous puissions comprendre et discerner comment Dieu agit envers nous, et que, discernant comment il agit envers nous, nous puissions adhérer à sa volonté, et que, adhérant à sa volonté, nous puissions parvenir à la réalisation de sa volonté, qui n'est autre que la conformité à notre Seigneur Jésus-Christ, et dans l'au-delà, la béatitude éternelle, la jouissance de Dieu pour toujours. Que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.